son agence, elle va être capable de construire du transport en commun, de tisser la toile, c'est comme ça qu'elle dit ça, d'augmenter l'offre, ce qui va permettre d'augmenter les revenus puis de mettre fin au marasme. Bon, c'est ça la logique. Après ça, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est pas vrai que ce gouvernement-là pense qu'on fera plus jamais de transport au commun, en commun. Mais je pense qu'effectivement, la ministre doit mieux expliquer ou en dire davantage, puis peut-être parler
mais un peu plus. C'est devenu un peu facile de s'en remettre à une agence. Moi, je veux savoir, on a voté pour des politiciens, ils ont été élus, c'est quoi leur vision du transport au Québec? T'as pas besoin d'une agence pour avoir une vision, là. J'espère qu'ils ont au moins... Je dirais cette franchise. Peut-être qu'ils n'en ont pas. Moi, quand je parle à des ministres, les seuls, tu sais, Fitzgibbon n'a pas l'air d'avoir besoin d'une agence pour me dire ce qu'il pense sur le fait qu'il y a trop d'autos, qu'il faut électrifier le transport, qu'il faut développer des projets. Je veux dire, encore là, on peut être en désaccord, mais ça a le mérite d'être concret, par exemple.
Oh oui, mais effectivement, que la ministre aurait avantage à mieux expliquer sa vision des choses, mais c'est pas vrai qu'elle veut pas faire de transport en commun. Ceci étant dit, quand je dis qu'il faut que ce soit plus constructif, là, j'ai envie de dire, parce que là, tous ces gens-là devront s'asseoir ensemble, ils vont avoir une rencontre entre la ministre et les maires. J'invite et le gouvernement et Bruno Marchand et compagnie à prendre exemple sur la personne la plus mature, la plus grande dans la pièce, qui bizarrement est la plus jeune d'entre tous, et c'est Catherine Fournier. Regardons aller la mairesse de Longueuil. Elle fait des propositions, elle ne fait pas des coups de gueule, elle est constructive, réussit à faire avancer ses dossiers, obtient des résultats. C'est bien beau les effets de toge à la Bruno Marchand, puis bon, Valérie Plante a été plus nuancée, mais quand même, il brasse beaucoup. Regardez comment travaille la mairesse de Longueuil, et je pense que tout le monde pourrait s'inspirer d'elle, incluant au gouvernement.
Comment ça va à Québec solidaire sur un autre front?
Écoute, on le voit dans les sondages, c'est très difficile pour Québec solidaire. Ils sont coincés entre la CAQ et le Parti québécois, puis t'as le PLQ qui, lui, a sa base traditionnelle, donc il se retrouve un peu coincé là-dedans, bon, pris avec une identité qui est trop à gauche. Mais au-delà de ça, je pense qu'au sein même du parti, il y a des enjeux en ce moment. Il y a des défis de taille, et je pense à la greffe qui semble avoir du mal à prendre depuis l'arrivée de la nouvelle co-porte-parole Émilise Lessant-Terrien. Elle a été élue le 26 novembre dernier. On s'en souvient, très, très serré. Quelques voix de plus que Ruba Gazal seulement. Et à la fin du mois de mars, donc, elle annonçait qu'elle se retirait de l'espace public pour une période indéterminée en raison d'un souci de santé. Évidemment, on respecte ça. C'est sa santé, ça nous regarde pas, puis on lui souhaite de se rétablir le plus rapidement possible. Mais ceci dit, ce que j'entends beaucoup depuis quelques semaines, c'est que les défis étaient, et le sont encore, nombreux depuis l'entrée en poste d'Émilise Lessant-Terrien. Et là, je te dis, on me dit, c'est pas une question de conflit de personnalité, là. Par exemple, entre elle et Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas ça le problème, quoique historiquement, ils ont jamais été reconnus comme étant les personnes les plus proches. Mais on me dit que c'est pas ça le problème. Le problème, on parle d'enjeux organisationnels. On me dit que Québec solidaire est habitué depuis 7 ans à avoir Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé qui étaient les deux co-porte-parole. Les deux venaient de Montréal, les deux étaient à l'Assemblée nationale. Bon, tout ça se passait bien. Là, tu as une co-porte-parole qui est non élue, qui demeure au Témiscamingue, à 1h30 de route de Rouyn-Noranda, qui n'a pas accès, en principe, aux ressources de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'est pas élue, n'a pas la même visibilité, etc. Et là, il s'était donné une période de transition de 6 mois. Finalement, bon, au bout de 3-4 mois, Émilise Lessant-Terrien s'est retirée pour une période indéterminée. Sauf que là, moi, on me dit, le parti continue à s'adapter, à se préparer pour être prêt à son retour. Il n'y a pas de question là, de plan B, puis de qu'est-ce qu'on fait si elle ne revient pas ou quoi que ce soit. Mais je pense que la question se pose, à la lumière de ce que j'ai entendu dans les dernières semaines, est-ce que ça va fonctionner, le modèle? À la base, deux co-porte-parole, je ne sais pas combien de temps ils vont durer ça, mais là, d'avoir un co-porte-parole élu qui est chef à l'Assemblée nationale, une co-porte-parole extra-parlementaire qui vient d'une région éloignée de Québec et de Montréal. Moi, je pense que la question se pose, est-ce qu'ils vont réussir à faire marcher ça?
Bon week-end, monsieur.
À toi aussi.
Salut. 98.5
Montréal. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
Réveil Rimouski à CFIX FM 93. Primeur, nouvelle régionale, réseaux sociaux, sport local, opinions et commentaires. Rimouski et l'Est du Québec, Réveil Rimouski et votre émission d'information du matin.
Voici la chronique H. Grégoire avec Sébastien Desjardins.
À la chronique Cash Grégoire d'aujourd'hui, donc en ce vendredi, Sébastien Desjardins, bonjour.
Bonjour Michel.
Donc aujourd'hui, donc c'est un sujet qu'on voulait aborder au cours des dernières semaines, mais on l'aborde aujourd'hui puisque on est là, c'est le printemps, il fait beau ici sur Rimouski aujourd'hui, le soleil brille et là il y a des gens là qui sont très fébriles, qui veulent changer de voiture, mais là, faut passer au financement. Et aujourd'hui, le titre de la chronique, c'est le financement, le crédit alternatif. Sébastien, qu'est-ce que c'est le crédit alternatif?
Bon, pour expliquer aux gens, évidemment, là, le crédit alternatif, évidemment, on va parler de deuxième et de troisième chance au crédit. Évidemment, c'est que souvent de fois, bon, de par la lourdeur des paiements qu'on a à faire, ainsi de suite, des fois, on peut sauter des paiements, des choses comme ça. On se retrouve en situation un petit peu plus difficile, notre pointage de crédit diminue. Donc, à ce moment-là, ben, ce qui fait foi de tout pour les banques pour savoir si tu vas pouvoir avoir un prêt ou pas, c'est ton pointage de crédit, évidemment, tu sais. Donc, le crédit alternatif, la deuxième, la troisième chance, c'est des prêteurs, c'est des prêteurs qui vont prendre plus de risques dans le fond, qui vont donner une deuxième et une troisième chance aux clients, moyennant un taux d'intérêt, évidemment, qui va être plus élevé. Mais au moins, on a la possibilité de pouvoir acquérir un bien parce que c'est pas tout le monde qui peut se priver d'avoir une voiture. Il y en a que c'est absolument nécessaire. Et puis, il y a deux choses à ça aussi. D'un, il y a la nécessité d'avoir une voiture, mais il y a le processus de reconstruction de crédit également en arrière de tout ça. Parce que pour refaire son crédit, ça peut être assez... Ben, pas assez long. C'est très long de refaire long, son crédit.
Oui. Et c'est très facile à perdre aussi.
Ah, c'est assez rapide, merci. Ouais. Oui. Je te dis que les banques n'y aillent pas avec ça.
Oui.
Mais ça fait partie aussi de rebâtir son crédit. Puis pour rebâtir ton crédit, évidemment, ben, si t'arrives pour avoir des cartes de crédit, bon, ben, souvent, on est refusé par les compagnies de cartes de crédit où il faut faire un dépôt d'avance sur le montant qu'ils nous prêtent.
Ah oui.
Fait qu'acheter une voiture est probablement, est la façon la plus rapide de rebâtir son crédit. C'est pas la seule façon, mais c'est une façon très rapide de le rebâtir, le crédit.
Et on le rebâtit, si on part d'un mauvais crédit, là,
oui,
pour avoir un bon crédit, ça peut prendre combien de temps, là?
Je te dirais, c'est parce que plus tu vas aller dans le temps, puis plus ton dossier va commencer à être solide,
oui,
les taux d'intérêt vont diminuer graduellement.
OK.
Si on parle dans le cas d'une faillite, évidemment, ça va s'accrocher à ton bureau de crédit pendant pratiquement 10 ans. Sauf que, mettons, après 2 ans, que toutes tes affaires sont sur la coche, que tu payes bien tes paiements, tes cartes de crédit, tes prêts TELUS, tes prêts Hydro-Québec, parce qu'il faut pas se le cacher, TELUS, Hydro, tout ça, là, eux autres, à la 31e journée, ça rentre dans le bureau de crédit tout de suite. Là.
Oui, effectivement, j'ai déjà fait faire des enquêtes de crédit chez des gens, puis les premières choses qu'ils veulent vérifie par des bureaux de crédit, là, c'est le téléphone et l'hydro.
Absolument, parce que les compagnies les plus sévères, eux autres, ils n'y arrivent pas, ça rentre dans ton bureau de crédit immédiatement. Fait qu'une fois que tout ça, toutes tes affaires sont bien gérées, la première année, tu peux déjà commencer à avoir une diminution au niveau de tes taux d'intérêt.
Oui.
La deuxième année, tu commences à avoir une diminution substantielle de tes taux d'intérêt. Puis après ça, quand on parle autour de 4 ans, tu vas t'en trouver pratiquement des taux de crédit standard, mais tu vas rester quand même en deuxième chance au crédit parce que ta faillite ou ton dépôt volontaire ou tes reprises de position, tu restes accroché à ton bureau de crédit 10 ans. Mais plus tu vas aller dans le temps, plus tes taux d'intérêt vont se trouver à descendre.
Bon, donc un crédit, là, ça se reconstruit.
Ça se reconstruit absolument, mais à un moment donné, il faut prendre ses finances en main.
Oui.
Puis vraiment, ça accroche avec ça, parce que faut pas oublier que dès que on dépasse le paiement, la 31e journée, tu viens de rentrer dans le bureau de crédit, c'est pas dramatique, évidemment, sauf que chaque 30 jours, t'as une cote à ton bureau de crédit qui va rentrer. Donc, c'est important de faire ses paiements toujours à date, même un peu d'avance quand on est capable de le faire, puis de respecter ses obligations. Mais, tu sais, moi, ce que je veux dire aux gens, là, tu sais, ça fait 20 ans que je travaille dans l'automobile, que je fais du crédit alternatif, que je travaille dans l'usager. Puis, ce qui arrive, c'est que les clients qui ont mis un genou par terre, OK, tu seras d'accord avec moi, Michel, là, la vie, là, elle frappe fort.
Oui, okay?
Que ce soit des maladies, des mortalités, même une naissance, ça peut mettre dans le chenoute à un moment donné, financièrement. Mais, tu sais, faut pas avoir honte de ça. Moi, les clients me disent souvent, tu sais, j'arrive chez le concessionnaire, gros habit complet, cravate, grosse bâtisse, les gens te regardent un petit peu de haut, je me sens intimidé. Venez me voir, Charles Grégoire Rimouski, vous allez voir que ça sera pas le cas du tout. D'un, je suis un gars qui a beaucoup d'expérience de vie. Je suis d'une très, très bonne écoute. Je vais écouter qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous recommander des solutions. Je vais vous donner une marche à suivre. Mais oubliez ça d'avoir honte dans mon bureau. Ça arrivera pas. Tu sais, les gens, pour rentrer dans mon bureau, faut qu'ils me racontent ce qui s'est passé.
Oui. Un peu comme un psychologue là, de l'automobile. De la
c'est à peu près ça, mais c'est pas tout le monde qui a envie de raconter sa séparation ou la maladie de son enfant ou quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui a envie de ça. Puis on en a déjà assez vécu. Puis on va chez le concessionnaire, puis on a l'impression de se faire traiter comme un va-nu-pied. Oui. Tu sais. Ben chez moi, ça, c'est des affaires qui arrivent pas. Puis j'ai un processus en place pour ne pas créer de déception envers le client. Puis je vais t'expliquer ça dès maintenant, Michel. Là. Moi, là, puis ça va surprendre bien des confrères de travail dans le domaine automobile, là. Mais quand que le client m'annonce que probablement qu'il va avoir des difficultés au crédit, là, je ne vends jamais une auto en premier.
Bon.
Jamais, 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 jamais. C'est la meilleure façon de vendre une auto en premier, de créer une déception avec le client. Parce que pour moi, de vendre une BM, une Audi, une Mercedes, peu importe quoi, extrêmement facile. Mais quand tu vas arriver au crédit, puis je vais te dire ça marche pas, mais tu as le moyen d'avoir un accent. Et Seigneur, que là, je vais te rentrer dedans. Tu vas être déçu. C'est pas ce que t'avais rêvé. Ouais. Fait que moi, je commence toujours par la demande de crédit. Là. On va faire une préqualification, les revenus, les dépenses qui sortent, qu'est-ce qui rentre, ainsi de suite. Et puis, on va envoyer tous ces paramètres-là à la banque. La banque va nous revenir avec des paramètres, le paiement maximum autorisé pour le client, tel taux d'intérêt. On va avoir tel amortissement pour telle année de véhicule. On prend tous ces paramètres-là et en fonction de ce que tu vas m'avoir dit, t'as besoin d'une familiale, sa place, t'as besoin d'un autosport, t'as besoin d'un camion pour aller travailler. On va travailler à partir des paramètres de la banque pour aller chercher ce que t'as besoin. Mm-hmm. Donc, quand je vais te présenter quelque chose, tu vas pouvoir partir avec et ça sera pas, ah, ben, finalement, on va aller au financement. Ah, ça marche pas au financement. Hey, c'est-tu assez drôle de se faire dire ça?
Ouais.
Acheter un char, là, pour moi, là, moi, je suis un passionné là-dedans. Je trippe. Faut que ça soit trippant. C'est une expérience. On en achète pas si souvent que ça, des autos. Ouais. C'est pas comme des chemises. Faut que ça soit le fun. Faut que ça soit un événement. Faut quasiment que ça soit le party quand t'achètes ça. Oh! C'est le fun d'acheter un char.
Ouais.
Mais faut que le commerçant se mette dans tes bottines un peu.
Ouais.
C'est pas facile de venir raconter ses affaires. Puis, quand tu fais affaire avec des gens qui ont une bonne écoute, qui ne te jugeront pas, qui en ont vu d'autres passer, puis si je suis pas capable de te financer aujourd'hui, là, ben je vais te dire quoi faire pour que je te finance l'an prochain.
Oui.
Et je vais te dire la marche à suivre pour que tu puisses y arriver.
Oui. On a parlé de deuxième chance au crédit, mais la troisième, elle existe chez vous aussi?
Elle existe aussi, mais c'est plus des termes galvaudés. Deuxième, troisième, quatrième chance au crédit. Là. Écoute,
aucun prêt refusé, là, c'est pas vrai ça.
C'est juste que différentes banques ont différents critères. Il y en a une qui va être plus lousse avec des travailleurs autonomes, il y en a une autre qui va être plus lousse avec les travailleurs saisonniers. C'est des termes galvaudés. Là. En vrai, c'est crédit alternatif. Puis évidemment, comme je le dis à chaque chronique, nous autres, on est des courtiers en financement automobile. Il n'y a pas un garage automobile qui travaille avec le plus d'institutions
que
financières
vous.
Que nous. Et ça, c'est la chance d'avoir 32 succursales en province, de vendre 25 000 autos par année. Ben, ça crée une force qui te permet de rentrer dans toutes les banques.
Oui.
Fait que moi, j'en ai des solutions pour les gens. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être dans 6 mois ou dans 1 an. Mais je te garantis que je vais te dire comment faire pour rebâtir ton crédit, puis t'auras jamais travaillé avec un conseiller comme moi, je te garantis.
En terminant, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a de beau, de nouveau, dans la cour chez H. Grégoire à Rimouski?
Écoute, ça rentre à pleine vanne à tous les jours. Là, le printemps est pogné. Là,
oui.
On sent la frénésie chez les clients, chez les représentants, chez les propriétaires comme moi, mon frère, mon père et ma mère. Écoute, ça sent le printemps. Là, c'est le fun. On a des belles voitures sport qui s'en viennent. Je me suis commandé une 370Z qui va arriver en début de semaine. J'ai reçu une belle BMW 430i, un Range Rover, puis des modèles plus normales aussi, des Elantra, des Cherokee. Écoute, j'en ai vraiment pour tous les budgets. Puis le franchiseur a monté à 3200 véhicules disponibles en inventaire total sur notre réseau. Il n'y a pas un regroupement automobile au Canada à l'heure actuelle qui a autant de voitures que ça en
succursale. Et on peut s'échanger des autos entre les garages. Là.
Tout ce qui est disponible sur le site Internet d'H. Grégoire est transférable intersuccursale. Sauf les lignes Econo. Vous allez voir, des fois, il y a une ligne Econo, c'est des véhicules un petit peu plus vieux. Là. Mais outre la ligne Econo, les 3200 véhicules que vous allez voir sur notre site sont transférables selon les mêmes standards de qualité. On vous fournit les rapports d'inspection, les rapports de conditions, qu'est-ce qui a été fait. On le réinspecte à l'arrivée à la succursale à Rimouski. On la relave au complet. On vous emmène belle cire. puis on vous donne un char qui est prêt à aller faire de la Main Street, comme on dit.
merci Sébastien. Donc c'est vrai que ça donne le goût là de changer de voiture le printemps, et je passe régulièrement là, puis j'envoie toujours des nouvelles.
Ben venez me voir, je suis tout le temps là, c'est pas compliqué, je passe sur tout.
Et vous êtes de grande écoute aussi pour le crédit, il faut le dire.
Absolument, écoute, ça fait tellement longtemps que je fais ça, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour les gens, et j'ai surtout des solutions.
Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Merci.
Réveil Rimouski.